Je voudrais lire deux paroles avant la prière, l'une tirée de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau Testament, donc tirée d'Ésaïe 54, du verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Sache bien que si l'on s'en prend à toi, ce n'est pas de moi que cela vient. Celui qui s'avance pour t'attaquer tombera à cause de toi. C'est moi, en effet, qui ai créé le forgeron, qui allume le feu de charbon pour en faire un brasier et qui fabrique une arme avec son habileté. Et c'est moi aussi qui ai créé le destructeur pour détruire. Aucune arme forgée contre toi ne sera efficace. Et toute langue qui se lèvera contre toi pour engager un débat juridique, tu la traiteras de mensonge. C'est là l'héritage des esclaves serviteurs de l'Éternel et la justice qui leur est rendue par moi. C'est ce que déclare l'Éternel. D'Hébreux, le chapitre 2, du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hébreux 2, verset 14, il a aussi reçu une part égale à la leur afin de détruire par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Car ce n'est pas des anges qu'il doit prendre soin, mais c'est de la postérité d'Abraham qu'il prend soin. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle à Dieu, pour obtenir le pardon des péchés du peuple par l'expiation. C'est pourquoi, ayant lui-même souffert la tentation, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Levons-nous pour adorer. Père céleste, nous venons consciemment devant ton trône de grâce pour te remettre ce service divin, pour nous consacrer à toi, te demander ta grâce. Ta grâce, oui, pour parler, ta grâce pour écouter, ta grâce pour suivre la direction et la conduite de ton esprit. Viens à ce qui te revient de plein droit. Sois aujourd'hui celui qui parle et celui qui agit au milieu de nous. Dieu Tout-Puissant, toi qui as des voies et des moyens de diriger les cœurs comme des ruisseaux d'eau, nous te prions de le faire aujourd'hui. Ensuite, nous avons des requêtes au Dieu d'un genre grave pour nos frères et sœurs qui ont été frappés par diverses épreuves, oui, même les plus diverses, dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Seigneur, tu sais de qui nous parlons. Tu sais qui ils sont et où ils habitent. Ensemble, nous te prions maintenant de d'étendre ton bras et de ne pas laisser se confondre celui qui place sa confiance en toi et ceux qui n'en peuvent plus. Nous intercédons maintenant pour eux afin de les arracher à Satan et à la démence et de les placer devant ta face. Toi, Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu as écrasé la tête du serpent. Tu as conduit les prisonniers libres. Oui, la prison, tu l'as pris captif et tu nous as totalement rachetés. Et nous t'en remercions de tout cœur, Sauveur fidèle. Sois avec nous sur et aie ton chemin avec nous. Fais-nous maintenir, être calme. Fais-nous maintenant être calme devant ta sainte face afin que ta parole soit vivante et puissante dans nos cœurs. Éloigne de nous, Seigneur, le quotidien avec tous ses soucis et ses détresses. Et sois miséricordieux envers nous à cause de ton nom. Nous prions pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Dieu fidèle, donne-nous aujourd'hui un nouveau regard vers toi. Fortifie, affermis, donne un nouveau courage et des nouvelles pensées et une nouvelle confiance là où la révélation fait défaut. Donne-la, sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, libère ceux qui sont liés. Glorifie ton nom et confirme ta parole. Puisse-t-il se produire aujourd'hui sous l'effet de la proclamation de ta parole, que des hommes soient reliés à toi, entre en communion avec toi, sois de nouveau vivifié et fortifié. C'est à toi, Dieu Tout-Puissant, que nous faisons confiance. C'est à toi que nous rendons grâce, car tu feras tout bien. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cela m'a maintenant rappelé notre bien-aimé frère Laume, qui est déjà auprès du Seigneur. Et ce sont des souvenirs si précieux que nous avons de toutes ces années, des expériences communes avec Dieu, une observation commune de la parole ensemble. Nous pouvons contempler par grâce les pensées secrètes de notre Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du thème que Dieu a envoyé des prophètes pour accomplir un but précis. Nous allons aborder ce sujet très brièvement et lire quelques passages bibliques à ce sujet. Je commence par Amos, le chapitre 3. Cette parole connue, bien connue, et j'espère que l'observation d'aujourd'hui submergera même le dernier d'entre nous, l'enthousiasme le touchera et que ce dernier recevra la clarté de la parole de Dieu et abandonnera toute résistance intérieure pour embrasser, accueillir, recevoir ce que Dieu a fait, pour dire oui, pour aller avec cela, suivre, c'est-à-dire de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Nous commençons avec Amos 3, verset 6 jusqu'au verset 8. S'entend de la trompette dans une ville sans que les gens soient effrayés. Amos 3, verset 6. Un malheur survient-il dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit la cause? Non, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses esclaves, serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui ne serait pas effrayé? L'Éternel Dieu a parlé, qui ne parlerait pas comme prophète? Une parole bien connue que frère Branham a souvent utilisée pour éclairer son mandat pour lequel il ne pouvait rien, auquel il n'avait rien contribué à partir de l'Écriture, et pour montrer que Dieu envoyait toujours un prophète lorsqu'il avait des choses particulières en vue sur terre, afin de donner aux hommes la possibilité de prendre une décision, la possibilité de croire Dieu et de passer ainsi justifié du temps à l'éternité. Partons tout de suite à Genèse. Genèse, chapitre 9. Peut-être déjà les derniers versets du chapitre 8 d'abord. Donc Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Je voudrais dans ce contexte encore lire du chapitre 6 de Genèse, chapitre 6, verset 22. Et Noé le fit. Il fit tout exactement comme Dieu le lui avait ordonné. Les hommes de Dieu n'ont pas eu de plan personnel. Ils sont devenus une partie du plan de Dieu à leur époque. Ils ont reçu par révélation divine, par inspiration de l'Esprit, par des visions de Dieu, ils ont reçu. Dieu leur a montré de quoi il s'agissait. Le déluge ne pouvait pas venir à moins que Dieu n'ait envoyé un avertissement, un dernier avertissement à l'humanité par le biais d'un prophète afin qu'il n'ait pas d'excuses par la suite. Écoutez, chaque fois que Dieu a fait l'histoire ou l'histoire du salut sur terre, il a envoyé un de ses esclaves, serviteurs et prophètes, un de ses représentants ici-bas pour pouvoir faire connaître sa parole ici-bas. Nous connaissons tous l'appel d'Abraham. Il était un prophète. Dans Genèse 18, verset 17, il est écrit: alors l'Éternel se dit, dois-je cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Dieu ne pouvait pas le faire parce que Abraham était prophète. Il fallait qu'il vienne au prophète pour révéler le secret dont il s'agissait en fait. Passons à Moïse. Lorsque le temps de l'accomplissement était arrivé, que Dieu, le temps où Dieu voulait libérer Israël, il est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Exode, chapitre 3. Vous pouvez tous tout le lire, tout le chapitre. Moi, je lis ici, à partir du verset 5. Il dit alors, ne t'approche pas, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Puis il poursuivit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila le visage car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur avait quelque chose à faire là où il aurait pu peut-être le faire lui-même, mais dès le commencement, dès le début, il a pris des hommes pour que ces hommes-là travaillent avec lui. Et Paul écrit aux Corinthiens, en tant que quelqu'un qui travaille avec Christ, nous vous exhortons à être des intendants des multiples grâces de Dieu. Dieu a fait appel à des hommes par lesquels il parle, par lesquels il agit, des personnes qui ont laissé un témoignage vivant, des hommes sur lesquels Dieu pouvait compter. Je continue à lire le chapitre 20 d'Exode. Exode, le chapitre 20. Lorsque le Seigneur donna la loi, il parla précisément à ces hommes dont il s'agissait et leur révéla sa parole et sa volonté sur la montagne. Le Seigneur cherche des gens à qui parler, des gens qui reçoivent sa parole, la prennent au sérieux et ensuite, par grâce, la mettent aussi en pratique. Je cherche une parole dans l'Écriture sainte et plus précisément dans Exode, chapitre 12. Ici, nous trouvons pour la première fois l'expression « assemblée », verset 3. Donnez à toute l'assemblée d'Israël les instructions suivantes. Ensuite, suivez les instructions. Nous venons maintenant à un point que je voudrais aujourd'hui souligner. Le soin de Dieu à l'égard de son peuple, Dieu prend soin. Il y a même une prédication de frère Branham avec ce titre. Dieu prend soin et nous. Dieu prend soin. Je lis ici dans Exode chapitre 12 à partir du verset 37. Les Israélites partirent donc de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, hommes seuls, sans compter les femmes et les enfants. Je voudrais vous montrer d'après la parole de Dieu que si le Seigneur commence à agir, s'il envoie un prophète, il prend soin de la nourriture et de la boisson. Puis il prend soin de tout son peuple qu'il fait sortir. Vous vous demandez peut-être que va-t-il se passer maintenant. Ce qui doit venir, c'est que Dieu a pourvu quotidiennement aux besoins d'une telle foule pendant 40 ans. Aucun camion n'a eu besoin de partir. Aucune nourriture n'a dû être livrée. J'ai lu qu'une personne intelligente a calculé que 250 camions par jour auraient été nécessaires pour nourrir cette foule. 600 000 hommes, sans compter toutes les femmes et tous les enfants. Nous pouvons à peine nous en sortir avec 1,5 million. Pensez-vous, femmes au foyer, à ce que vous faites comme commission et à ce que vous ramenez à la maison pour 2 ou 3 personnes. Là-bas, une telle quantité d'hommes au milieu même du désert. Le Dieu Tout-Puissant a ouvert les fenêtres du ciel. Il a nourri son peuple chaque jour d'une telle quantité. Quelle leçon en tirons-nous? Que Dieu prend la responsabilité de nous, pour autant que nous entendions son appel et que nous soyons conduits à l'extérieur, à sortir. Alors Dieu donne alors de la manne à son peuple. Il pourvoit à nos besoins. Il m'est venu à l'esprit que ce que Dieu nous a fait parvenir, nous a fait recevoir, parvenir au fil des ans en termes de paroles, de manne cachée par grâce, ce qui ne s'est produit à aucune autre époque et âge, se produit maintenant sous le message prophétique divin. Dieu a préparé pour son peuple une manne fraîche, vivante, nouvellement révélée par lui. Il a préparé pour nous. Donc, nous apprenons donc à apprécier la fidélité de Dieu envers son peuple. Il ne nous laisse pas seuls. Quand la nourriture était nécessaire, il l'a fait venir. Quand la boisson, l'eau était nécessaire, il a fendu un rocher. Et si vous lisez le premier chapitre, chapitre 10 de Corinthiens, 1 Corinthiens 10, vous constaterez que le rocher qui accompagnait Israël était le Christ lui-même. Il n'a pas seulement pourvu, il était présent. Il a pourvu. Il a pris soin. Je crois que nous pouvons dire la même chose. Au milieu d'une famine spirituelle, d'une sécheresse, nous pouvons expérimenter ce que le prophète Osée a dit. Des jours viendront où les hommes auront faim, non pas d'une faim de pain ou d'une soif d'eau, mais d'une faim d'entendre la parole du Seigneur. Je crois que ce sont les jours dont ont parlé les prophètes. Une faim envers la parole pure et vraie de Dieu. Écoutez-moi. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple par l'intermédiaire de Moïse autrefois, il a veillé à ce que tous ceux qui ont immolé l'agneau, tué l'agneau, qui ont obéi et qui sont sortis, qui sont partis, ne manquent de rien. Dieu a pourvu à leurs besoins. Nous pouvons dire la même chose en ce moment, dans ces jours. Aucun de ceux qui font confiance au Seigneur et le suivent avec obéissance, dans l'obéissance pour suivre la voie de Dieu, ne seront confondus. Aucun. Au contraire, sur le chemin de Dieu, nous verrons de plus en plus les miracles de Dieu. Nous les expérimenterons, car c'est là que notre confiance en lui grandit et que le lien et la communion avec lui deviennent plus intimes et plus glorieux. Il y a encore une parole dans Néhémie au chapitre 9, verset 19. Néhémie, chapitre 9, verset 19. Tu ne les as pas abandonnés dans le désert selon ta grande miséricorde? Non. La colonne de nuée ne s'est pas éloignée d'eux pendant le jour pour les guider, qui devait les guider sur le chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit pour éclairer le chemin par lequel ils devaient passer. Tu leur as aussi donné ton bon esprit pour les instruire. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as donné de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu les as nourris dans le désert de sorte qu'ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne sont pas enflés. Quelle parole glorieuse! Il s'agit du fait que Dieu n'abandonne pas et ne néglige pas les siens, oui, ceux qui répondent à son appel, le suivent, se laissent conduire à sortir. Soyez tout à fait honnête. Combien peuvent croire d'emblée que des hommes, précisément dans le désert, n'ont pas sur des chemins balisés ou des trottoirs, mais par mont et par veau, ont les mêmes chaussures pendant 40 ans, le même costume, le même vêtement, et rien n'est usé, rien n'a vieilli. N'est-ce pas un miracle? Dieu peut toutes choses, qu'il s'agisse de choses terrestres ou spirituelles, quand il le veut, cela se produit. Quand cela s'est-il produit? Chez qui cela s'est-il produit? Chez les rachetés du Seigneur, chez ceux qui ont entendu le message prophétique, qui ont reconnu l'heure de leur visitation divine. Je vous le dis, j'ai appris à apprécier avec plus de gratitude, avec plus de reconnaissance, tout ce que Dieu a fait de nos jours et fait de nos jours. Et nous devrions tous devenir plus reconnaissants. Passons à d'autres passages de l'Écriture, 2 Chroniques 18. Une parole très connue de nous tous. Michée était un prophète du Seigneur, mais il y avait aussi Josaphat, un roi craignant Dieu, le roi de Juda. Lorsque 400 prophétisèrent, il ne leur fit pas confiance et demanda, « N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui nous puissions consulter le Seigneur ?» Tout le monde peut lire cela au chapitre 18. Je passe tout de suite au chapitre 20, verset 5, où il est écrit, Josaphat se présenta au milieu du peuple de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il pria, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des cieux? Oui, dans ta main sont la force et la puissance, et personne ne peut te résister. Amen. Et personne ne peut te résister. Josaphat en avait fait l'expérience, il avait une résistance intérieure lorsque les 400 prophètes, sur lesquels un esprit de mensonge était venu, prophétisaient. Josaphat ne pouvait pas être d'accord avec cela et demanda à Akab de lui dire s'il n'y avait pas un autre prophète. Un prophète du Seigneur qui a la parole de Dieu, non pas une idée, non pas une opinion, non pas une interprétation, mais la parole du Seigneur par révélation. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Nous ne voulons pas de fausses consolations. Nous ne voulons pas être menés par le bout du nez et ce, de la manière la plus pieuse qui soit. En tant que peuple de Dieu, nous avons le droit d'entendre la vraie parole de Dieu. Et nous savons que la vraie parole de Dieu ne peut être annoncée que par les vrais esclaves serviteurs à qui elle a été révélée. Il est ensuite dit ici, au verset 14, alors Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jehiel, fils de Matania, Lévite, dans les descendants d'Achab, fut saisi par l'Esprit de l'Éternel au milieu de l'assemblée du peuple. Si bien qu'il s'écria, « Soyez attentifs, vous tous, judéens, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Vous n'avez rien à craindre, rien à redouter de cette grande multitude, car ce n'est pas à vous de combattre, mais c'est la cause de Dieu. Alléluia, gloire à notre Dieu. Contre qui allions-nous nous battre? Par où commencerions-nous? Par où finirions-nous? Chaque fois qu'il y a un ainsi dit l'Éternel, cela nous traverse quand même la moelle et les os. Il est dit ici, ainsi vous parle l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous parle. C'est à nous qu'il parle. Et la parole révélée est ainsi dit le Seigneur. De A à Z, c'est le témoignage de Jésus-Christ, notre Seigneur. Les promesses de Dieu pour nos jours y ont été révélées et nous en sommes reconnaissants. Ainsi parle le Seigneur. Vous n'avez rien à craindre, rien à redouter de cette grande multitude. Quand on voit les nombreux évangélistes et la foule qui les entoure, puis le petit troupeau et sa propre petite personne, on pourrait déjà trembler. Mais l'instant d'après, nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu marche et se tient avec les siens pour que ce soit lui qui prenne les devants dans la bataille. Il n'a encore perdu aucune bataille et n'en perdra aucune. Notre Seigneur est le grand vainqueur de Golgotha. Nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur. Car nous avons compris que ce n'est pas nous qui combattons, mais que c'est le Seigneur qui combat. Il y a encore plus ici. Je relis brièvement la dernière partie. Car, du verset 15, « Car ce n'est pas à vous de combattre, mais c'est la cause de Dieu. » Le verset 17. Mais vous n'aurez pas à combattre. Prenez position. Restez tranquille. Restez tranquille. Et regardez le salut que l'Éternel vous accorde à Juda et à Jérusalem. Gloire à notre Dieu. Personne ne pourra plus venir dire, j'ai apporté la victoire. Nous regardons, mais nous nous élevons avec respect, avec crainte devant le Dieu vivant. Et nous regardons dans la foi. La foi est une confiance assurante, une conviction de choses qui ne sont pas encore là, mais que l'on voit déjà dans la foi et dans l'esprit. Un homme qui a confiance à Dieu et qui reçoit la promesse qu'il ira de l'avant dans la lutte, un tel homme n'aura pas de mal à croire que Dieu a déjà vaincu. Amen, amen. Un homme qui reçoit la promesse de Dieu lui-même. Je marcherai devant vous, ou devant toi. Je combattrai pour toi, pour vous. Oui, nous pouvons déjà lever les mains et dire, Dieu fidèle, rends grâce pour la puissante victoire. Je te rends grâce pour la puissante victoire que tu nous as déjà donnée par grâce. Ça, c'est la confiance qui doit grandir en nous en ces jours. Je le répète, quand on voit et entend tant de gens et qu'on regarde la masse, on pourrait avoir peur. Mais tout au fond du cœur, il y a un examen de conscience. On prend les Saintes Écritures et on se dit, Seigneur, où en suis-je, où vais-je? Quel est l'état spirituel de l'Église, etc. Il y a une chose que nous pouvons dire avec ultime certitude, avec reconnaissance. Dieu nous a révélé sa parole et sa volonté. Oui, nous pouvons chanter. Tu t'es révélé à moi dans une grande miséricorde. La révélation de Jésus-Christ ne s'entend et ne se trouve nulle part. Et c'est à cela que nous reconnaissons que Dieu nous a aimés. Pour que nous croyions sa parole de tout notre cœur. Et il a dit, je vous aimerai aussi et je me révélerai à vous. Si le Seigneur ne peut pas se révéler à un homme comme celui qu'il est vraiment, en tant que celui qu'il est vraiment, alors la question légitime est de savoir si des hommes l'ont rencontré, si ces gens l'ont vraiment rencontré, s'il ne peut pas se révéler à eux. J'ai été horrifié lorsque cet homme qui est en partie juif et en partie d'origine italienne, lorsqu'il s'est fait un hobby de cristalliser les trois personnes au sein de la divinité, puis de remercier chacune de son chacune à son tour. Oh, que se passait-il dans mon cœur? On croyait, on voyait, on entendait que le mental voulait maîtriser les choses. Comment nous pouvons être reconnaissants d'avoir appris à ne pas aborder Dieu et les choses spirituelles avec l'intellect, mais à poser le pied sur le sol divin de la révélation. Et là, nous sommes comme Moïse. Ôte tes chaussures, car le lieu où le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Poursuivons notre lecture. Ici, au verset 17, la deuxième partie. Ne craignez pas et ne vous découragez pas. Allez à la rencontre demain. Allez à leur rencontre demain. Car l'Éternel sera avec vous. Nous arrivons aussi tout de suite à une parole tout à fait glorieuse. Car l'Éternel sera avec vous. Alors, lorsqu'il est avec nous, tout va bien. Même dans la vallée de l'ombre, tout s'arrange. Et tout sera notre bien. Et au milieu des ténèbres, une lumière s'allume pour nous. Je lis maintenant 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 20. Tôt le lendemain matin, comme il partait pour le désert de Tekoa, Josaphat se leva comme il sortait et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ses prophètes et vous vaincrez. Amen. Et vous serez vainqueurs. Cela aussi est la parole sainte de Dieu, non pas en un prophète, mais à ses prophètes. Des hommes de Dieu sont devenus un porte-parole de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont devenus un porte-parole de Dieu ne vont jamais rien apporter de propre. Ils n'auront jamais rien de propre à présenter. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu. Permettez-moi de dire ici que si nous plaçons vraiment toute notre confiance dans le Seigneur, Dieu, nous nous rendrons compte qu'il envoie un prophète et nous accueillerons de tout cœur la parole et le message qu'il apporte. C'est alors que tous les scribes du pays pourront venir nous dire « Méfiez-vous des faux prophètes ». Et là, nous pouvons les approuver d'un vigoureux « Amen » et seulement dire que nous vous le souhaitons à vous aussi. Nous vous souhaitons la même chose. Et nous pouvons aussi vous dire « Gardez-vous des faux prophètes ». Mais où est-ce qu'il est écrit « Prenez garde aux vrais prophètes ». Cela n'est pas écrit. Il est écrit, je le dis, et je le lis au sujet des vrais prophètes. Mettez votre confiance à l'Éternel votre Dieu, dans l'Éternel votre Dieu. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu. Il relit le verset 20, la deuxième partie. C'est ainsi que vous serez sécurisés. Faites confiance à ces prophètes et vous vaincrez. Quelqu'un pourrait te dire, n'est-ce pas dangereux? Pas du tout. Ce qui est dangereux, c'est de faire confiance aux scribes et aux pharisiens, aux prédicateurs autoproclamés, mais pas à un prophète envoyé par Dieu, établi, confirmé et légitimé par lui. Cet homme de Dieu, on peut lui faire confiance, car le Seigneur a dit, je vous enverrai des prophètes dont vous tuerez certains et persécuterez les autres. Mais nous sommes d'accord avec les lanceurs d'alerte. Et nous pouvons dire haut et fort, méfiez-vous de tous ces faux prophètes. De la même manière, nous pouvons dire que Dieu a promis d'envoyer un prophète avant que le grand et terrible jour de l'Éternel n'arrive. C'est alors que les faux prophètes sont venus et ont dit, oh, soyez prudents, oh, prenez garde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, nous pouvons, et nous ne disons pas cela par arrogance, mais nous pouvons discerner par grâce, par grâce. Maintenant, quelqu'un va dire, oui, pourquoi les autres ne le peuvent-ils pas? Le discernement n'est pas en toi, ni en moi, ni dans les autres. Le critère est la parole de Dieu. Je peux vous montrer ceci, tiré des Saintes Écritures. Même lorsque des prophètes annoncent quelque chose, mais qu'ils prêchent ensuite d'autres dieux, Dieu veut seulement nous mettre à l'épreuve pour voir si nous croyons et faisons confiance au seul et vrai Dieu. Deutéronome 13, dès le verset 1. Dans certaines Bibles, c'est le chapitre 12, verset 32. Chapitre 12, verset 32. Tous les commandements que je vous rends obligatoires, vous les observerez scrupuleusement, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. À quel passage biblique cette parole de Dieu vous nous fait penser? Apocalypse 22. Selon laquelle nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher aux paroles de la prophétie de ce livre. Maintenant, Deutéronome 13, verset 1, maintenant. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige qui arrive effectivement conformément à ce qu'il avait annoncé, et qui t'adresse ensuite cet appel. Adorons d'autres dieux. Avez-vous écouté? Adorons d'autres dieux. inconnu de toi jusqu'à présent. Et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles d'un tel prophète ou d'un tel songeur. Car, verset 3, car l'Éternel, votre Dieu, ne veut pas là que vous... Car l'Éternel, votre Dieu, ne veut par là que vous mettre à l'épreuve pour s'assurer que vous aimez vraiment l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous écouterez ses instructions, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Aussi ici, nous avons un verset biblique clé. Il n'est pas dit, il n'est en effet pas dit, et vous suivrez un prophète. Je le relis. Vous suivrez l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Les vrais prophètes n'ont pas de successeurs. Les vrais prophètes ouvrent la voie au Seigneur. Et les hommes se mettent à la suite du Seigneur. Est-ce vrai? Est-ce bien cela? Amen, amen. Je peux vous le dire, je vais vous dire, qui a des successeurs? Ce sont les faux prophètes. Ce sont les faux prophètes qui ont des successeurs. Les vrais prophètes mettent les gens en contact avec Dieu. Mais nous voyons ici l'avertissement que même des miracles et des signes peuvent être annoncés et se réaliser même ensuite. Mais c'est une épreuve. Et je vous le dis, quand on assiste à une réunion où rien ne s'est passé en fait, mais où certaines choses ont été rapportées comme des miracles, et alors on se demande quel est le but de ces gens en fait. C'est qu'on lève les yeux vers eux et ils se présentent ensuite comme des hommes envoyés de Dieu. Non. Un vrai prophète de Dieu fera comme Jean-Baptiste et d'autres hommes de Dieu. Ils apporteront les gens à suivre le Seigneur. Ils amèneront les gens à suivre le Seigneur et ils proclameront sa parole avec véracité. Je suis reconnaissant au Seigneur que ces nombreux exemples aient été consignés, retenus dans les Écritures, afin que nous puissions faire preuve de discernement aujourd'hui. Vous êtes tous familiers avec Matthieu 7, du verset 21, n'est-ce pas? Il est écrit là-bas, en ce jour-là, beaucoup viendront à moi en disant, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom? » Alors, on énumérera, n'est-ce pas, tout un registre, et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et nous arrivons alors à ce que Paul et Pierre ont développé dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 3. Il est question de l'état général des derniers jours. Et puis il est dit au verset 7, de Timothée, chapitre 3, verset 7, qui sont toujours désireux d'apprendre et qui pourtant ne parviennent jamais à la vraie connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ceux-ci s'opposent à la vérité. Des hommes corrompus d'entendement et réprouvés quant à la foi. Mais ils n'iront pas loin dans leurs entreprises, car leur stupidité apparaîtra clairement à tous, comme cela a été aussi le cas pour les deux autrefois. Jamais ces ambresses sont apparues là où Moïse, le prophète de Dieu, était apparu. Là où le vrai a été apporté, les faux sont également apparus. Et il faut vivre cela dans sa propre chair pour pouvoir se projeter correctement dans cette époque. Le mot-clé ici est « De même que jamais ces ambres autrefois se sont opposés à Moïse, de même ceux-ci se dresseront contre la vérité, s'opposeront à la vérité. Même pas contre l'homme, car ils ont vu quand il a apporté la vérité et que celle-ci a été confirmée par Dieu. Il suffit de l'ignorer. Ils l'ont simplement ignoré. Ignorer la vérité, nier la vérité sur la divinité, sur le baptême, sur la sainte scène, toutes les vérités fondamentales, les vérités de l'Écriture et prêcher un évangile qui démange, un autre évangile qui démange les oreilles de chaque auditeur, de chaque auditoire. On pourrait presque les regarder bouger leurs doigts, car cela les démange et ils doivent les aider un peu. Et puis lorsque la parole est ensuite annoncée en vérité et qu'on ne dit que la moindre chose, ils font référence aux miracles et aux signes. Certains devront encore s'étonner et réfléchir à leurs signes et miracles. Le critère de mesure, c'est la parole. C'est la parole à laquelle tout doit être mesuré, par laquelle c'est la Sainte Écriture. Je vais vous lire encore autre chose de 2 Pierre au chapitre 2. Ici, l'apôtre Pierre a prédit les derniers jours et écrit comme suite. De Pierre, chapitre 2, verset 1, il y avait cependant de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement parmi vous des hérésies pernicieuses, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une destruction soudaine. Mais beaucoup se joindront à eux dans leur débordement et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Verset 3, écoutez bien. Poussés par l'appât du gain, ils chercheront à vous exploiter par des paroles inventées. Mais la sentence de condamnation n'est pas oisif pour eux depuis les temps anciens et leur ruine ne sommeille pas. Il faut assister une fois à 40 à 45 minutes entières où ils parlent que d'argent. Qui donne les 15 000, qui donne les dizaines de milliers, les 5 000, etc. Et ainsi de suite. Et puis, on vient à la chose sérieuse, que celui qui n'avait pas d'argent fasse un chèque et que celui qui n'avait pas de chèque donne le numéro de la banque et nous donne procuration. C'est incroyable. Puis, en un jour, 30 000 livres sterling sont réunis. Cela fait exactement 90 000 marks allemands, donc 90 000. Et ce n'est pas suffisant. On continue à collecter et à battre le tambour, n'est-ce pas? On fait pression autour de la grande affaire. Tout est joué. Et il y a de grands programmes et les gens donnent leurs derniers sous. Ils sont appauvris pour une année entière. Il est écrit, poussés par l'appât du gain, ils chercheront à vous exploiter par des paroles inventées. ils tenteront de vous exploiter. Il est vraiment impossible de croire tout ce qui se passe. Pas une seule fois dans une assemblée, ils ont lu les Saintes Écritures. Il n'y a donc plus lieu de s'en étonner, n'est-ce pas? Non. Je le répète aujourd'hui. Merci à Dieu qui nous a révélé sa parole et fait connaître sa volonté. Nous croyons que les jours des apôtres reviennent. Aucun apôtre n'avait besoin de mendier ou de demander de l'argent à l'Église. Les croyants ont apporté à leurs pieds ce qui était nécessaire. Et frère Branham disait dans une prédication, « Si je devais demander de l'argent, je ne prêcherais plus. » Et il a dit, « Écoutez-moi, Dieu vous demandera des comptes au tribunal. Vous qui faites des affaires avec le don et le service qui vous a confié. Ici sur terre, nous pouvons nous en tirer avec certaines choses, mais ensuite ce ne sera plus le cas. » Le même Pierre écrit ici, dans le même chapitre de Pierre, chapitre 2, verset 15, oui peut-être déjà à partir du verset 14, 13 ou bien 14. Leurs yeux, 2 Pierre chapitre 2 verset 14, leurs yeux sont pleins d'une cupidité adultère, assoiffés de péché, ils attirent à eux des âmes mal affermies et ils ont un cœur exercé au gain, enfant de malédiction. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés. Ils ont pris la voie de Balaam, fils de Bozor, qui désirait le salaire du péché. Dans l'épître de Judas, nous pouvons lire qui a désiré le salaire des devins. Des devins. Il y a des vrais esclaves serviteurs de Dieu, il y en a des faux. Un vrai esclave serviteur de Dieu fera confiance au Seigneur pour tout ce qui est nécessaire dans le royaume de Dieu et n'en parlera à aucun homme. C'est l'affaire de Dieu, car c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle nous nous tenons. Et jusqu'à aujourd'hui, il a pris soin pour son œuvre et il continuera à le faire pour l'éternité. Je le dis ici pour la troisième ou la quatrième fois aujourd'hui. Dieu m'a rendu plus reconnaissant au cours des semaines et des jours passés. Il m'a soumis à l'examination personnelle. Et j'ai pu dire, avec un cœur reconnaissant, quel privilège c'est de te servir, toi, le Dieu vivant de tout mon cœur, de tout mon âme, sans penser à moi, mais en se tenant à la cause de Dieu. Bien sûr, nous ne nous sommes pas contentés de cette constatation, mais nous voyons que l'un et l'autre ne sont absolument pas responsables du chemin qu'ils suivent. Il devient évident de qui nous sommes les enfants d'esprit. De qui nous sommes les enfants d'esprit. Récapitulons. Résumons. Lorsque Dieu a l'intention de faire quelque chose sur terre, il révèle ses mystères, ses secrets à ses esclaves serviteurs, les prophètes. Il avait un Noé, un Moïse, un Abraham, un Élie. Il en a eu beaucoup. Il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jean, celui de Patmos. Il a envoyé ses esclaves serviteurs matin et soir. Ceux qui sont ensuite appelés par lui, sont appelés à sortir par lui, entrent dans une relation d'alliance avec lui. Il fait un contrat avec nous. Oui, il a fait à Golgotha. Il a dit, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Nous avons une nouvelle alliance avec toutes les promesses, tous les engagements divins et la partie prophétique en fait également partie. Tous ceux qui sont appelés à sortir par Dieu, amenés à sortir par Dieu, peuvent faire l'expérience que Dieu ne les laisse pas mourir de faim, même dans le désert. Que Dieu les nourrit, que Dieu les abreuve, qu'il les habille de la tête aux pieds, il prend soin d'eux. Ils peuvent faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Que notre voyage dure 10, 20, 30, 40 ou plusieurs années, le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Jusqu'à aujourd'hui, il a tenu sa parole, alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il a pourvu à nos besoins de manière abondante et paternelle. Nous avons reçu de la nourriture spirituelle, de la nourriture solide, de la manne fraîche et vivante, venant de Dieu. Aujourd'hui, j'étais de bonne heure dans cette salle et j'ai regardé la table des livres. Combien de prédications y a-t-il à disposition? Comment pouvons-nous nous y plonger, nous approfondir et manger, nous nourrir et être fortifiés dans l'homme intérieur? Dieu a pourvu abondamment et paternellement. Il ne s'agit pas de quelque chose de périmé ou de dépassé, mais de quelque chose, une nourriture que Dieu a prévue pour ce temps cette nourriture qui a été révélée à son peuple par le message de cette heure. Nous en sommes également reconnaissants de tout cœur pour cela. Nous pouvons maintenant faire la distinction et prendre notre position. Le Seigneur a dit, je suis venu en ce monde pour une séparation. Pour que ceux qui voient soient aveugles, mais ceux qui ne voient pas, ou alors inversement, l'un comme ceci et l'autre comme cela, deviennent voyants. Qu'est-ce que c'était? Les scribes pensaient qu'ils voyaient, qu'ils entendaient, mais ils ne le faisaient pas. Je vous donne la clé aujourd'hui. C'est la clé de la parole. Tous ceux qui écoutent l'enseignement du faux prophète, y croient et y persistent, rejetteront le prophète envoyé par Dieu et s'opposeront à lui. Il en va de même dans l'autre sens. Tous ceux qui sont graciés par Dieu et qui reçoivent en eux la parole prophétique jusqu'à dans notre époque et la laissent devenir une révélation divine dans leur cœur. Ce sont ceux-là qui sont du côté de Dieu et doivent rejeter ce que le faux prophète, oui, tous les faux prophètes et les faux docteurs annoncent. Car l'un exclut l'autre. On ne peut pas mélanger le divin. Le Seigneur a séparé la lumière des ténèbres et a donné à la lumière le nom de jour pour donner aux ténèbres le nom de nuit. Et Pierre écrit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Paul l'écrit encore, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, vous êtes devenus des enfants de lumière. Et Jésus a dit, marchez dans la lumière pendant que vous avez la lumière. Il devait y avoir de la lumière au temps du soir. Et il y a eu de la lumière. Et la lumière a paru. Pierre s'exprime et dit, la parole prophétique qui brille comme une lumière éclatante dans un lieu sombre, un lieu obscur, nous éclaire maintenant d'autant plus. Alors, ainsi Dieu envoie ses esclaves serviteurs et ses prophètes, invite son peuple à sortir, exige que son peuple sort, se sépare, et ensuite le message arrive, alors avec force. Fais partir mon peuple, fais sortir mon peuple, laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. Nous ne pouvons pas rester en arrière dans tous ces différents camps pour ensuite servir Dieu. Non. Le Seigneur avait désigné un lieu. C'était la montagne qu'il avait désignée. Et vous savez que lorsque le peuple est arrivé au mont Sinaï, Dieu lui a parlé d'une manière très puissante. Après notre sortie, nous sommes mis en contact avec Dieu. Nous entendons sa parole sainte et précieuse et nous y répondons. Nous prenons à cœur ce qu'il nous a dit. Puis nous avançons avec foi. Laisse sortir mon peuple, le peuple avec lequel Dieu a fait une alliance. Comme nous l'avons lu au début, Dieu ne fait rien, car il, sans révéler son dessein à ses esclaves serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, je suis reconnaissant à Dieu, reconnaissant du fond du cœur de s'être montré le même en ce temps. Au chagrin des scribes et des pharisiens, mais à la joie de la troupe des rachetés par le sang, à la joie des rachetés et des élus lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Car quand ils entendent, leur cœur exulte et se réjouit. Ils peuvent alors, comme Marie et Zacharie, louer et exalter le Seigneur en esprit. De même que les enfants, lorsque le Seigneur est entré à Jéricho, et non à Jérusalem, ou bien, entrer à Jérusalem, pas à Jéricho, à Jérusalem, Hosanna, soit à celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a une chose que je voudrais dire à cette occasion, peut-être même pour le meilleur. Il y avait un frère, auteur noir, en Amérique, qui prêchait sur ce sujet, l'entrée du Seigneur sur le dos d'un âne à Jérusalem. Et il a tiré une comparaison et a dit, Dieu le Seigneur est déjà monté sur plus d'un âne. Il a utilisé plus d'un esclave serviteur pour apporter sa parole. Puis, il a dit la chose suivante. L'âne se serait trompé. Ou bien alors, l'ânesse, elle se serait trompée si elle avait pensé que les cris de joie lui étaient destinés. Vous avez tous bien compris? Écoutez, c'était une grande acclamation, n'est-ce pas? Mais l'ânesse n'aurait pas dû croire que les cris de joie lui appartenaient, lui étaient destinés. Ainsi, même si Dieu utilise les plus grands hommes, la louange et l'adoration et la gloire n'appartiennent à personne que le Seigneur utilise. Le Seigneur a dit, et dites que le Seigneur en a besoin. Et ensuite, il renvoie l'ânesse. Non, la louange appartient en toute chose à notre Seigneur. Et là aussi, nous pouvons faire une distinction claire et nette. Nous sommes reconnaissants pour tous les esclaves serviteurs et prophètes que le Seigneur a utilisés, dont il s'est servi, il a pu s'en servir si merveilleusement. Mais la louange et l'adoration appartiennent à notre Dieu d'éternité en éternité. Nous ne voulons pas être appelés par quelqu'un comme successeur de Paul ou de Pierre, ni comme successeur de Branham. Car en vérité, il n'y a pas de telle personne, une telle personne n'existe pas parmi nous. Il n'y a que des gens qui suivent le Seigneur et qui sont reconnaissants pour chaque service que Dieu a accordé par grâce. Amen. Amen. Et pour cela aussi, nous sommes reconnaissants que Dieu nous ait fait don de ce discernement. J'espère que nous sommes devenus plus reconnaissants en cette heure. Plus reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné et que cela nous a été conservé en toute clarté. En toute clarté. Et j'ai cette confiance en Dieu. Il nous gardera jusqu'à la fin dans cette clarté divine. Il connaît notre désir. Il nous tient fermement. Et dit personnellement, et dit, personne ne les arracheront de ma main. Mon Père est plus fort que tous. Loué soit le glorieux nom de notre Seigneur. Amen. Levons-nous et remercions brièvement le Seigneur. Il nous a fait savoir par qui il a parlé. Oui, qui a apporté sa parole pour nous ramener à l'état à l'état primitif dans lequel l'Église était au commencement, et de créer ainsi les conditions pour la restitution de toutes choses et la restauration. Il nous a fait la grâce de prendre la manne cachée et de nous l'accorder, de nous la donner, et nous pouvons faire la différence entre ce que les hommes font dans des programmes religieux ou pieux et ce que Dieu fait maintenant parmi son peuple selon sa parole et son plan. Nous avons cette distinction. Nous avons entendu son appel. Nous croyons en lui et en ses prophètes. Pas en n'importe quel prophète, en ses prophètes qui l'ont connu en vérité, qui ont prêché sa parole en vérité. Nous avons un consentement intérieur à cela. S'il devait y en avoir encore quelques-uns parmi nous aujourd'hui qui ne sont pas encore parvenus à la percée totale, à la clarté absolue, cher cœur, que doit encore faire Dieu pour le rendre plus clair et plus vrai? Que doit-il encore faire et confirmer avant que nous le croyions, lui? Et comment le confirmer avant que nous le croyons? Dieu qui est descendu de la colonne de nuée et de feu dans la lumière et qui nous a parlé et nous a ramené à lui. Il est ici aujourd'hui et parle à chaque heure. Nous n'avons pas affaire à des hommes comme nous l'avons lu. Nous ne suivons pas un prophète, ni un prédicateur, ni un évangéliste quelconque. Seigneur, nous t'avons suivi. Tu dis encore aujourd'hui, suis-moi. Tu n'as dit à personne de suivre Pierre ou Paul. Non. Tu as dit, suivez-moi. Fidèle Seigneur, nous te prions maintenant ensemble de venir encore au secours de tous ceux qui sont en lutte intérieure, afin qu'ils prennent la bonne décision de te croire. Cela devrait être facile, car tu es crédible. Nous t'en remercions. Ta parole est claire pour ceux à qui tu l'as révélée. Ensemble, nous la mettons. Nous nous mettons à ta disposition. Oui, nous tous qui sommes ici aujourd'hui et tous ceux qui écouteront ce message, cette réunion, que ce soit ici en Suisse, en République fédérale, en Autriche, partout où les cassettes peuvent aller. Seigneur, tu connais les tiens. soit proche d'eux. Dis-leur, je pourvois à vos besoins, je suis avec vous. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien, ni de nourriture, ni d'eau. Je suis au milieu de vous. Suivez-moi. Ah, Dieu fidèle. Nous sommes pourtant liés à tout ce par qui tu as parlé, par ta parole et par ton esprit. Nous avons été mis en accord avec ta parole. Seigneur, nous te remercions pour cela. Qu'il soit confirmé maintenant, aujourd'hui, en ce lieu, que tu es toujours le même et que ta parole ne revient pas à vide, sans effet. Sauve les perdus, saisis-les au plus profond de leur âme, ô Seigneur. Arrache-les au feu comme un tisson. Guéris les malades. Révèle-leur qu'ils étaient déjà guéris quand tu fus frappé et martyrisé sur la croix. Seigneur, à cause de nos péchés, tu as versé ton sang pour nous racheter, nous réconcilier et nous donner le pardon. Tu as été frappé et martyrisé en ton corps pour porter ainsi notre maladie afin que nous soyons guéris par tes blessures, par tes maîtres sur. Seigneur, nous te remercions pour cela. Que la foi vivante dans le Dieu vivant se manifeste maintenant et que la droite de l'Éternel donne la victoire au peuple de Dieu. Alléluia. Seigneur, et plus encore, tous ceux qui sont dans le doute, qui sont tiraillés par toutes sortes de discours et de rumeurs qui se répandent comme un cancer qui détruisent et défigurent les gens à l'intérieur et à l'extérieur. Seigneur bien-aimé, si tu veux bien faire grâce à ton peuple, que tu puisses bien, Seigneur, faire grâce à ton peuple et lui donner une langue circoncise. Ô Seigneur, afin que, pénétrés de ton feu divin, nous puissions proclamer les grandes œuvres de Dieu. Fidèle Seigneur, c'est d'une âme profonde et avec une profonde gratitude que nous sommes ici aujourd'hui pour le grand privilège de n'avoir pas été dupes d'un homme quelconque qui cherche à nous égarer et à nous tromper, mais d'avoir entendu ta parole vraie et claire de la bouche sainte inspirée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions ensemble du fond du cœur au nom saint de Jésus. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Louange à notre Dieu.